Claire de Duras, le marchand de Zabora. Quatre mules noires traînaient un carrosse sur une des grandes routes d'Espagne. C'était l'équipage d'un marchand de Zabora, vieux et fort riche, qui s'en allait en Ségovie, où l'appelaient les intérêts de son commerce. Il avait donné l'ordre de s'arrêter aux approches de la nuit. Aussi, dès qu'elle se montra, l'on fit halte à la porte d'une hôtellerie d'assez mince apparence, mais ayant l'avantage d'être seule à cet endroit de la route. Elle ne démentait pas la réputation des hôtelleries espagnoles. C'était une de ces masures où l'écurie est la plus belle, sale, et où les voyageurs d'habitude sont des muletiers. L'hôte vint recevoir le marchand, un flambeau à la main, la serviette sur le bras, cérémonial d'usage lorsqu'on va au-devant des princes. En Espagne, comme dans tous les pays civilisés, un carrosse donne droit au respect des hommes. « Seigneur, dit l'hôte en se courbant, soyez le bienvenu. » Une heureuse étoile vous a conduit dans mon gîte, où l'hospitalité, pour n'être pas gratuite, n'en sera pas moins courtoise. Si, pour trouver quelque chose chez la plupart de mes confrères, il faut l'y apporter, ici, vous rencontrerez l'abondance, sans vous inquiéter de rien. On vous servira du vin pour lequel Mahomet lui-même violerait le Coran. Ma cuisine est variée, comme la récréation. Vous reposerez ensuite dans un lit capable de faire dormir le grand inquisiteur. Que Dieu bénisse !»« Oh, je ne crois guère aux promesses des aubergistes, » répondit le marchand d'un ton sérieux, mais poli. « Si je fais chez vous malgré cher, vos discours, quelque beau qu'ils soient, n'y changeront rien. » Et si elle est au contraire délicate, oh, je saurais bien m'en apercevoir. Mon appétit n'est pas sans intelligence. L'hôte, un peu déconcerté, s'en était tiré par une révérence pour montrer qu'il prenait de fort bonne grâce la réponse du marchand et s'empressa de le faire entrer dans une espèce de salon garni de quelques meubles épars. Sur les murs, une grossière peinture représentait ici les actions éclatantes du vieux chevalier de la Manche. Là, les hauts faits de l'amant de Chimène, ce grand exterminateur des Maures. Car l'Espagne n'a que deux héros populaires, le Cid et Don Quichotte. Comme l'hiver faisait souffler un de ces vents les plus froids, des sarments pétillaient et bruyaient dans la cheminée, tandis qu'une lampe, suspendue aux poutres d'un plafond noirci, semblait brûler à regret le peu d'huile qu'une main économe lui avait versée. Le souper ne se vit pas attendre. Le voyageur aux mules noires, ayant pris place, mangea sans rien dire, mais fort surpris de la bonté des mets. Il contrastait merveilleusement avec l'aspect d'un lieu si pitoyable. Et pendant que le marchand mangeait, l'hôte, debout, poussait de fréquents soupirs. Il était demeuré pour servir, ne voulant laisser cet honneur à personne, ou peut-être parce qu'il était à lui seul, dans son auberge, le maître et le valet. « Mais qu'avez-vous ? » lui dit enfin le marchand, dont l'appétit s'en allait avec les plats vides. « Vous soupirez. Auriez-vous quelque chagrin ?»« Seigneur, » répondit l'hôte, « j'ai un fils. Il est toute ma famille. Il est aussi toute mon espérance. Et demain, il part, il se rend à Salamanque pour étudier à l'université. » Ah, ah, vous avez donc formé des desseins pour son avenir. Et que fera votre fils ? Oh, tout ce qu'il voudra. À la sortie de l'université, je le lancerai dans le monde. Le gaillard ne peut manquer d'avoir de l'esprit, continua l'hôte avec un air de satisfaction vaniteuse. Et il ira loin. Au dire d'un chanoine de ma connaissance, l'esprit est la fortune de ceux qui en ont une à faire. Cette fois, pour toute réponse, le marchand se contenta de sourire. L'aubergiste ne s'y trompa point. Il vit un blâme dans ce sourire. « Serais-je assez heureux, ajouta-t-il aussitôt, pour recevoir de vous, Seigneur, un bon conseil ?»« Oh, je n'en donne presque jamais, repartit le marchand. J'ai appris à connaître leur inutilité. Un conseil peut tout au plus éclairer la raison. Il ne saurait donner la force d'agir. Pour marcher, il faut en avoir la volonté. Il ne suffit pas de voir juste et loin devant soi. Ajoutez que suivre un conseil, c'est avouer qu'un autre l'emporte sur vous en sagesse. Or, l'amour-propre ne se laisse guère acheter, arracher de tels aveux. Mais la supériorité de votre sagesse sur la mienne ne saurait être mise en doute, continua l'hôte. Étant plus âgé, vous avez plus d'expérience. Et d'ailleurs, un père souffre tant de se séparer de son fils que dussiez-vous renverser mes projets les plus chers. Mon cœur, je le sens, serait de votre côté. Eh bien, dit le marchand, rendu plus causeur par la gaieté du vin, eh bien, je vais vous conter une petite histoire. Vous en saisirez la leçon, si vous avez du sens. Asseyez-vous pour m'écouter avec plus attention. » L'hôte prit une chaise, se plaça à une distance respectueuse du marchand qui, après s'être un moment recueilli, commença son récit à peu près en ces termes. « J'habite la ville de Zamora, où mon père vendait de la serge. Lorsqu'il vit la mort s'approcher, il m'appela près de son lit. « Mon fils, me dit-il, ma boutique est ton héritage. Tu n'auras pas à rougir d'être plus ou moins que moi. Voilà pour ce qui regarde ta position dans le monde. Tu partiras du point où je me suis arrêté, et voilà pour ce qui concerne ta fortune. J'ai fait la moitié du chemin, achève le reste. Sois honnête homme, quoique marchand. Suppose à chaque pas que je suis toujours devant toi. De cette manière, tu attendras, sans t'égarer, le but de toute industrie, le repos dans l'aisance. » Et il expira. Le dernier conseil de mon père était pour moi une chose sacrée, et je me livrais, malgré mon affliction profonde, aux soins du commerce. Ma vie, sans événement, marchait uniforme et douce. Si j'avais à raconter toutes les journées, je ferais au hasard le récit d'une seule. On peut appliquer aux hommes ce que l'on a dit des peuples. Leurs désastres sont bruyants, leur prospérité silencieuse. Aussi les plus courtes histoires sont celles des peuples les plus heureux. Je sortais rarement, je ne fréquentais personne. Cependant, le ciel en soit loué, j'avais toujours chez moi une nombreuse compagnie. C'étaient les acheteurs. À cette époque, un nommé Govavino vint loger en face de ma demeure. Ayant pour revenu 300 piastres bien comptés, il vivait dans l'oisiveté. Elle était même pour lui le résultat d'un système. Il prétendait que les plantes offraient dans la nature l'existence la moins tourmentée, précisément parce qu'elles sont privées de toute action. Alors il fallait leur ressembler le plus possible. Un peu de promenade, c'est tout ce qu'il se permettait. Après nous être d'abord salués, nous avions échangé quelques paroles. Et quand je l'eus une fois prié d'entrer dans ma boutique, la politesse l'y ramena, puis l'habitude, et bientôt enfin, ce fut l'amitié. Un jour, il me parut rêveur. « Qu'est-ce ? » lui dis-je. « Oh, j'ai besoin de vous parler. »« Faites ! Notre voisinage est presque une parenté. »« Faut-il vous l'avouer ? La solitude est trop vide pour moi. »« Quand je vous quitte, je suis tellement seul que je ne trouve plus moi-même. » Alors cela m'a donné quelque désir de me marier. Ah, ce mot, je le regardais. Oui, voisin, poursuivit-il. On m'offre la main de Donna Teresa. Elle a 15 ans. Sa dot est assez forte pour doubler la mienne en fortune. Veuillez me conseiller avec franchise. L'amitié vous rendra le conseil facile, et moi je vous le rendrai commode, tant je suis résolu d'avance à vous céder. Vous l'exigez? Oui, absolument. Peut-être, je lui peignis le mariage sous des couleurs un peu sévères. Je m'attachais surtout à lui faire comprendre qu'en se mariant, il fallait au moins qu'une femme ne trouvât pas l'âge d'un père dans celui d'un époux. Puis il jeta ses deux bras autour de mon cou en s'écriant « Oh, cher Gaspard, votre sagesse est une vraie lumière. Teresa est charmante, sans doute, mais comme vous le dites avec une justesse admirable, je suis venu trop tôt pour elle dans ce monde. J'aurais beau la tenir par la main, je serait toujours en avant. Bon, n'y pensons plus. » Le lendemain, je le revis. Rien entre nous ne rappela la conversation de la veille. Le jour suivant, même silence. Je ne retrouvais dans son esprit aucune trace de son projet. Je me réjouissais au moment même où un billet de sa main va me prier de me rendre promptement à l'église. Une noce s'y préparait. C'était la sienne, et mon ami se mariait. De l'église, j'accompagnais chez eux les nouveaux époux. Nous y trouvâmes compagnie nombreuse, festin délicat, le tout embelli par la joie des visages. Le voisin vint à moi. Sa contenance était un peu embarrassée. Je le mis à l'aise en lui vantant le charme de sa femme et le félicitant sur son mariage. Il en fut ravi. Vous voilà tout étonné de me voir applaudir à ce que j'avais voulu empêcher. C'est qu'un voyageur français m'a appris, oh, je ne sais à quel propos, qu'un philosophe de sa nation pensait qu'il ne faut jamais blâmer une chose à laquelle il n'y a point de remède. La maxime m'a paru sage. Je l'ai gardée pour en faire une des règles de ma conduite. Moi-même, je l'avouerai, séduit par l'ivresse générale, peut-être plus encore par les grands et beaux yeux noirs de Teresa, j'allais jusqu'à considérer une noce comme un acte passé avec le bonheur. J'admirais la mariée, son voile blanc, sa couronne de fleurs. Je me plaisais à rappeler combien, le matin, elle avait été ravissante, ainsi parée au pied de l'autel. J'oubliais qu'à l'église, un parent de la mariée, homme fort savant, m'avait appris que, dans l'Antiquité, ce costume était celui des jeunes filles conduites au temple pour être sacrifiées. Ma pensée, loin de s'arrêter sur cette parure des victimes, se laissait distraire par le voluptueux fandango, dessinant ses pas au son de la castagnette. Si bien qu'en rentrant chez moi, Ma maison me sembla plus grande. Je rêvais, sans le vouloir, à ce mot de mariage, pour moi jusqu'alors sans image et sans magie. Mais le sommeil tirait à toutes les idées comme une ivresse, il les dissipa. Je voyais Gavino moins souvent. Le plaisir ou le souci, on ne sait jamais bien lequel quand il s'agit de mariage, le retenait chez lui. Et en peu d'années, il était devenu père de deux fils. L'aîné avait été nommé Pedro, le second reçut le nom de Fabrice. À la naissance de ce dernier, je dis à mon voisin, « Cher Gavino, la fécondité de votre Teresa peuple la solitude dont vous vous plaignez. L'ennui ne vous chasse plus du logis. » « Non, me répondit-il, mais l'ennui, en s'en allant, a laissé la porte ouverte au chagrin. Gavino avait raison. Son revenu était bien modeste pour toute une famille. Il sentit combien il avait eu tort de n'avoir pas rendu le travail compagnon de sa jeunesse. « Mes fils seront plus heureux, me disait-il. Mon expérience sera profitable. Ils auront une carrière à parcourir. Je leur choisirai. Belle, marcheront à la richesse, peut-être même aux honneurs, si ce n'est à la gloire. » Vous le voyez, Gavino n'était pas dépourvu de sagesse, mais ces mots de gloire et d'honneur vous annoncent aussi qu'il n'était pas exempt de vanité. Et cette folie de vanité gâte les meilleures causes et trouve les têtes les plus saines. La situation de mon voisin devint pénible. Son beau-père mourut. La succession était assez considérable, mais 8 enfants ne purent en faire le parage sans plaider. Cela veut dire sans se ruiner. Gavino restitua la dot. Gêné dans ses ressources, il restreignit ses dépenses. Il fut donc obligé de contrarier parfois Teresa dans ses besoins de luxe, dans ses caprices de coquetterie. Elle se considéra dès lors comme une femme sacrifiée. Le chagrin, cette fièvre de l'âme, ne tarda pas à détruire, à ronger Teresa, naguère si fraîche et si riante. 3 médecins appelés furent tous 3 d'avis différents. Aussi le pauvre Gavino, désolé, vint me voir un matin tout vêtu de noir. C'était son habit de noces. Il n'avait eu qu'à placer un long crêpe à son chapeau. Malgré sa tendresse pour ses 2 filles, mon voisin ne pouvait leur rendre ses soins à tous les instants dont le cœur d'une mère a seul le secret. Il résolut de rater leur entrée au collège. Il les conduisit lui-même chez les moines qui, séparés du monde, semblaient vouloir néanmoins, en se consacrant à l'enfance, dédommager la société des rigueurs de leur célibat. À son retour, Gavino trouva sa maison plus triste encore qu'elle ne l'était avant son mariage. Aussi ne sentait-il presque plus de chez moi. L'avenir de ses enfants l'occupait au point de changer les préoccupations en inquiétude. Oubliant le sort de mon premier conseil, je crus devoir lui donner un nouveau. L'amitié m'en imposait la loi. « Mettez, lui dis-je, vos 2 fils dans ma boutique. Ils vivront sous mes yeux jusqu'au jour où ils me succéderont. Je vous offre pour eux un sort tout fait, peu brillant, mais solide. Ôtez à présent ce qui peut y avoir d'aventureux. C'est déjà faire beaucoup pour l'avenir. Gavino réfléchit un moment, puis me dit « Oh, vous avez raison, mon cher Gaspard. Mais je préfère un moyen de fortune plus prompt, un essor plus rapide, quelque chose d'éclatant. Vous travaillez opiniâtrement sans avoir pu jusqu'à ce jour vous rendre riche. Il faut donc à ces chers enfants une carrière moins lente, des chances moins restantes. J'apprécie vos conseils, mais aussi n'adopterai-je qu'un parti assez raisonnable pour mériter votre assentiment. »
Dans l'attente de ce que le ciel avait inspiré à mon voisin, je cherchais quelque moyen de le distraire. Son antipathie pour le travail avait toujours éloigné les livres de ses yeux. Afin de le familiariser avec la lecture, je lui en parlais comme d'un amusement. Je me gardais bien de la lui montrer comme une étude. À défaut de bibliothèque, j'avais quelques volumes épars chez moi dans une chambre inhabitée. Ils faisaient partie de l'héritage d'un vieux parent. M'en servais guère, mais mes livres de commerce sont ceux où je lis avec le plus de complaisance. Les autres ne sont pour moi qu'une distraction. Parmi ces volumes, Gavino en prit un au hasard qu'il emporta. C'était l'histoire d'un maréchal de France, écrite par un évêque et commentée par un chanoine. La traduction en espagnol était d'un bénédictin. Le lendemain, devançant l'heure accoutumée, Gavino vint chez moi. La joie illuminait son visage. « Mon ami, me dit-il, pas d'indécision, j'ai trouvé. J'ai choisi pour mon fils une carrière. J'ai lu la belle chose qu'un livre, comme il vous ouvre un monde nouveau, comme il chasse vos propres idées pour vous donner celles des autres. Mon cher voisin, si vous lisiez davantage, vous finiriez par ne plus songer à votre commerce. Mais explique-moi, moi, lui dis-je. » Ayant regardé de tous côtés pour bien s'assurer que personne ne pouvait l'entendre, il frappa sur le volume en s'écriant « Voilà la vie de Pedro, voilà son sort !»« Fort bien, mais que sera-t-il »« Mais lieutenant général des armées du roi !»« Lieutenant général des armées du roi !»« Oh, vous vous attendiez guère à cette nouvelle, le poste est brillant !» Mais n'est-ce pas un rêve, lassé par la nuit dans votre esprit? Mais j'ai pas dormi 3 secondes. Oh, c'est cela, vous êtes malade. Mais du tout, je me suis jamais mieux porté. Un Français dirait que vous bâtissez des châteaux en Espagne. Cela vous est commode étant sur les lieux. Apprenez mon dessin. Vous jugerez après. L'éducation de mon fils une fois achevée, je le fais entrer dans son régiment. Soldat, soldat. Oh, ceci est plus facile. Mais le voilà loin du généralat. Patience. Sa mère, dont je viens de lire l'histoire, a commencé à peu près ainsi. Après avoir franchi toutes les grades de l'armée, il a fini par la commander. Mais parce que Faber a réussi, et pourquoi mon fils ne réussirait-il pas comme lui? Était-il d'un temps particulier, ce Faber? Mais sa naissance, il était fils de l'imprimeur, et Pedro a pour père un bourgeois. Mais ses talents, mon fils en possède. Son régent, à qui j'ai envoyé quelques flacons de vin de Xérès, m'a bien assuré en me remerciant que Pedro ne serait pas un homme ordinaire. Ah, ah, il ira loin, dit l'heureux Gavino, parcourant à grands pas ma boutique. Au moins, repris-je, faudrait-il consulter ses goûts. Ah, je l'attendais là, mon fils, à l'humeur belliqueuse. Il bat tous ses camarades. Quel avenir pour lui, quelle gloire pour moi, quand les sentinelles lui porteront les armes, quand il défilera sur la grande place de Madrid à la tête de bataillons nombreux. Mon ami, mais ce même livre renferme comme gage du succès une maxime excellente. La voici. Pour réussir, que faut-il? Audace et volonté. La destinée de mon fils est dans ses deux bouts. Il me quitta. J'espérais le revoir plus calme le lendemain. Et le contraire arriva. L'illusion dans son esprit s'était changée en réalité. Décidément, il se croyait le père d'un lieutenant général. Aussi, toute sa petite personne montrait un certain aplomb. Il avait déjà mis de côté la modestie. C'était un compte sur les honneurs à venir. Le temps approchait où son fils allait quitter la robe d'écolier pour la casaque militaire. Gavino, rencontrant un jour chez moi mon médecin, se mit à parler de son projet. « Je voudrais connaître quelqu'un à Madrid, dit-il. Mon fils va s'y rendre, mais à qui l'adresser? Moi, je ne sais. « Oh, j'ai dans Madrid un ami, je puis vous donner une lettre pour lui, » répondit mon médecin. « C'est sans doute un de vos confrères. » « Oui, mais son sœur est plus brillant. Il est médecin du roi, décoré de ses ordres, logé au palais. Oh, il a même reçu des lettres de noblesse. Daignera-t-il accorder sa protection à Pedro? Mais il le doit pour peu qu'il se souvienne que, fils d'un paysan, il a pu s'élever sans le secours des autres. « Fils d'un paysan ?» répéta Gavino, en homme frappé de cette parole. « Oui, oui, fils d'un paysan du village où je suis né. Notre amitié date du berceau. »« Mon médecin est obligeant, » dis-je, quand il fut parti. « Oui, » reprit Gavino, « j'ai lieu de m'en applaudir. Il paraît à son aise. » L'état qu'il exerce tire ses revenus des souffrances humaines. La ferme est bonne, on peut même aller loin. Mon ami est devenu un grand personnage. Et voisin, je songe à une chose, je la devine. Pourquoi Fabrice ne serait-il pas médecin? Et par une autre route, il arriverait, comme son frère, aux honneurs. Car la médecine, si elle ne devait pas le servir de marchepied, ne remplirait pas mes vues. Qu'en dites-vous, cher Gaspard? Mon fils est jeune, le médecin du roi doit être vieux. Voilà une succession à recueillir. Mais prenez garde, il y aura foule. Chacun se croira des droits à l'héritage. Oui, mais son frère le général, l'appui de son crédit. Le roi pourra-t-il refuser? Que vous en semble? Oh, je place assez bien mes enfants dans ce monde. Je fus d'abord tenté de rire à cette nouvelle chimère de Gavino. J'aurais bien toutefois le laisser doucement rêver. Je fis plus, je me mis à rêver avec lui. Gavino se hâta. Ses deux fils étant sortis du collège, leur départ se fit avec solennité. Après un banquet d'adieu auquel j'avais pris part, Gavino dit gravement à ses enfants « Enfants, prêtez-moi toute votre attention. J'ai passé ma vie sans rien faire, à quoi Dieu m'a aidé. J'ai mangé mon revenu. J'ai aussi mangé mon capital que j'ai considéré comme une rente plus large. Il m'a donc fallu vous donner une éducation pour remplacer votre patrimoine et pour vous ouvrir une carrière. Vous travaillerez beaucoup, sans doute, mais vos enfants feront comme moi, ils se reposeront. Partez donc, je vous recommande la gloire. Pedro, Vous serez un jour lieutenant général des armées d'Espagne, et vous serez, vous, Fabrice, premier médecin du roi. Le but marqué, il ne s'agit plus que d'aller bon train. 200 piastres dans son cette bourse, mon cher Pedro, et dans ce livre est la règle de ta conduite. C'est la vie de Faber, ton prédécesseur. Remercie ce seigneur Gaspard de ce trésor, vient de lui. De ce moment, tu as ta destinée dans ta poche. Et toi, Fabrice, voilà une égale somme dans cette autre bourse. Je te donne un point de livre, l'exemple du fameux docteur que tu dois remplacer, t'en tiendra lieu. Ce sera pour toi un livre avant vivant. Adieu, général. Tâche de tuer tous tes ennemis de ton pays. Et toi, docteur, guéris les sujets malades de ton roi. Si vous agissez ainsi, Sa Majesté y trouvera un double avantage. Quant à l'humanité, il y aura compensation. » Et la voix de Gavino était émue. Ses larmes demandaient à couler. Il se retint pour donner à ses fils l'exemple de la fermeté. Elles tombèrent en abondance après leur départ. Toute la gloire promise à ses fils ne consolait pas une telle séparation. Peu à peu, cependant, le charme de ses rêves adoucit l'amertume de sa douleur. Fabrice et Pedro écrivirent de Madrid pour annoncer l'accueil bienveillant du médecin du roi. L'un était déjà dans un régiment, l'autre dans une école de médecine. Pedro maniait le fusil et Fabrice la lancette. « Les voilà en route, » disait le voisin. « Ils arriveront. En toute chose, le premier pas est le seul difficile. Il faut ensuite, pour continuer à marcher, que mettre un pied devant l'autre. » Mais hélas, à quoi servent les vastes projets? La mort, d'un coup de sa faux, se plaît à les renverser. Ces tristes réflexions, mon cher hôte, vous annoncent le moment douloureux où mon voisin Gavino ne fut ravi pour toujours. Oui, il avait dîné chez moi, il me quitta à l'heure accoutumée. Le lendemain, il m'envoya chercher. Je le trouvais dans son lit. Sa tête était brûlante. Je devinais sans peine que cette ardeur du sang provenait de la tension continuelle de son esprit. Je lui conseillais quelques remèdes dont l'emploi m'avait été salutaire. Et mon ami me répondit, « Oh, je suivrais aveuglément votre conseil si je ne devais pas auparavant consulter le médecin de ma Teresa. Il ne l'a pas sauvé, il est vrai, mais ce n'est pas sa faute. La nature est souvent bien entêtée. Quelquefois aussi, elle nargue les médecins. Elle a contre eux de la rancune. Elle ne leur pardonne pas de la contrarier. Soit qu'ils guérissent quand elle veut qu'on meure, soit qu'ils tuent quand elle veut qu'on guérisse. Le médecin arrive, le mal augmente. Voilà, voisin, me dit Gavino en serrant ma main dans les siennes. S'il me faut quitter la vie, ce sera sans regret. J'ai rempli mon devoir. J'ai formé dans l'État une grande famille. Mon nom figurera dans l'histoire. La tristesse de mes derniers moments se perd dans la douceur de cette pensée. Oh, j'aurais bien voulu cependant voir Pedro après sa première bataille. Mais puisque Dieu en ordonne autrement, il faut obéir sans me plaindre. Mon ami, donnez à mes chers enfants la bénédiction de leur père. Et pour de bon fils, cette couronne vaut bien une couronne de laurier. Je donne l'une, et la gloire donnera l'autre. Une heure après, il n'était plus. Ici, le voyageur aux quatre mules noires suspendit sa narration. La tête cachée dans ses deux mains, il semblait oublier que l'hôte près de lui écoutait toujours. Après un moment de silence, il toussa pour retrouver la voix. Ses yeux étaient humides, et ceux de l'hôte avaient aussi quelques larmes. Et le seigneur Gaspard continua de la sorte. À ma douleur, je connus toute mon amitié, après avoir écrit aux deux frères pour leur apprendre leur malheur, après avoir payé les dettes de Gavino. Le reste de son patrimoine, je me mis à voyager. Mon âme déchirée me laissait plus sentir la vie. J'entretins d'abord une correspondance active avec les deux frères. Mais insensiblement, leurs réponses à mes lettres se firent attendre. Et n'étant jamais pour longtemps dans la même ville, je ne pouvais indiquer le lieu précis de ma résidence, ce qui fournissait une excuse à la négligence, et non certes à l'oubli, des fils de Gavino. Mes voyages augmentèrent mes relations. Par elles, s'accrut ma richesse. Mes opérations absorbaient les jours et le mois. Enfin, vous le dirai-je? Oui, du sais-je par la révéler un tort. Je perdis la trace des deux frères. J'écrivis cependant à Madrid. Je priai un de mes correspondants de s'informer si dans l'armée, si dans la médecine, on ne connaissait point de jeunes hommes, l'un du nom de Fabrice et l'autre nommé Pedro. Ces recherches ne furent aucun résultat. Un jour, cependant, la Gazette me tomba par hasard dans les mains. J'y lus qu'une action éclatante venait d'élever au grade de colonel, malgré sa grande jeunesse, le seigneur Pedro. Il n'avait que 25 ans. Mais c'était l'âge du fils de Gavino. Antagoniste de mon ami, dans ses chimères vaniteuses, je me mis alors à dire « Mais ne peut donc jamais se faire que la fortune soit aussi folle que nos projets ?» Je trouvais d'ailleurs piquant de voir Pedro en chemin d'écrire un jour dans l'histoire des rêves de son père. Il est vrai que Gazette ajoutait au nom de Pedro celui de Castella. Et ceci me déroutait un peu. Mais bah, Pedro, cédait aux petitesses du parvenu, aura, du haut de sa fortune nouvelle, embelli son nom pour que rien ne rappelle les jours de son obscurité, pas même sa signature. J'écrivis donc à tout hasard au colonel Don Pedro de Castella. Point de réponse. « Allons, dis-je, attendons que mon cher Pedro, si toutefois c'est le mien, devienne général. Alors je monterai sur une de mes mules pour aller le complimenter à la tête de son armée. 10 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Gavino lorsque j'eus besoin de me rendre à Madrid. En route pour cette ville, j'arrivais dans un village bâti au milieu d'une plaine, la plus belle de l'univers. Il me prit fantaisie de l'admirer à loisir, d'attendre l'heure où le soleil le saluerait de ses derniers rayons. Pendant qu'on préparait mon dîner à l'hôtellerie où j'étais descendu, je sortis pour visiter d'abord le village. Cette promenade avait aussi un but d'utilité. Ma barbe un peu longue me faisait désirer un barbier. Je le trouvai. Il était seul dans sa boutique. J'entrai. Le barbier était un grand jeune homme, fort laid, mais d'une figure assez distinguée. Elle me frappa. Je me mis à le regarder et j'attirai par là son attention. Et pendant que sa main agile faisait écumer le savon dans un plat d'étain, il me dit « Seigneur, n'êtes-vous pas déjà venu dans ce village ?»« Ah non, mon ami, non. »« C'est singulier. Certainement, je ne vois pas votre figure pour la première fois. » Et la vôtre aussi, il m'est pas inconnu. » Et tout en causant, le barbier, d'une main légère, dépouille mon menton. À peine eut-il achevé qu'il s'écrie « Ah, miséricorde divine! Maintenant que je vois mieux vos traits, n'êtes-vous pas un marchand de Zamora? Et comment le savez-vous? Mais vous étiez l'ami d'Ambrosio Gavino. » Gavino, oh, l'auriez-vous connu? Oh, Seigneur Gaspard, pouvez-vous méconnaître son fils? Le fils de Gavino, mais lequel? Fabrice? Le premier médecin du roi? Oh, pas même son barbier. Mais est-il possible? Vous, Fabrice, vous? Mais oui, voilà bien les yeux. L'air est jusqu'au son de la voix de mon ami. À ces mots, j'ouvris les bras, il s'y précipita. Les plus douces larmes témoignèrent de l'émotion de nos âmes prêtes à se confondre. J'accablais Fabrice de questions, mais je lui en faisais tant et tant à la fois qu'il ne savait à laquelle répondre. « Nous parlerons de tout cela à table, lui dis-je. Allez, viens, viens dîner avec moi. » Il ferma sa boutique, et nous voilà cheminant vers mon hôtellerie. Je courus à la cuisine pour faire doubler mon repas, pour le changer, s'il est possible, en festin. Et pendant ce temps, Fabrice, qui m'avait suivi, regardait un soldat debout, mais pas trop d'aplomb sur la jambe de bois, et buvait dans un verre grossier un vin plus grossier encore. « Mais ce soldat t'occupe, lui dis-je. Le connais-tu ? Ben, il me semble, je le crois du moins à mon cœur. Le soldat, quand on parlait de lui, se retourne. « Mille bombes ! » s'écria-t-il. « Voilà un barbier, pareil de tout point à mon frère. Mais voilà un soldat terriblement façonné sur le modèle de Pedro. Pedro, c'est mon nom et ton nom. Quoi, c'est toi? Et toi aussi, mon frère? » Et les voilà se précipitant dans les bras l'un de l'autre. Et les voilà, courant, se mêlant à leurs embrassements, pleurant, riant, en m'écriant « Ah, c'est donc là notre général !»« Sergent, me répondit Pedro, sans ma jambe de bois. »« Et où allais-tu ? » dit le barbier. « À Madrid, te chercher, » répondit l'invalide. Sans attendre des nouvelles questions, je les emmène tous deux au salon, où nous nous mettons à table et le joie double et triple notre appétit. Le repas fini, les questions recommencent. « Un moment, dis-je, procédons par ordre. Chacun à son tour va raconter comment ont été détruits les projets de votre bon père. Mon avis étant adopté, je donnais la parole à Pedro. » Oh, son histoire ne fut pas longue. Toute la protection du médecin du roi avait à peine pu lui obtenir un grade subalterne dans un régiment. Traîné de garnison en garnison, ses années s'écoulaient, se perdaient. Lorsque, la guerre étant déclarée, Pedro vit enfin la carrière ouverte à son ambition. Il allait se distinguer, il allait marcher au généralat. Mais à la première affaire, sa jambe partit et le laissa sans qu'il ait pu jamais en avoir de nouvelles. Conduit dans un hospice, on le soigna, on le guérit, puis on le mit à la porte. Le régiment fit de même. On lui délivra son congé de réforme, honorable certificat qui vous déclare brave et inutile. Et dans ses plans de grandeur militaire, Gavino croyait avoir tout prévu. Il avait oublié qu'une bagatelle, le canon. Fabrice mit la même brièveté dans son récit. Sa vie n'était pas trop chargée d'événements. Il avait étudié la médecine, la chirurgie et jusqu'à la pharmacie, mais les malades semblaient s'être donné le mot pour fuir sa triple science. Ils avaient plus de plaisir à mourir de la main des autres qu'à guérir de la sienne. Sa vie se consumait ainsi dans une activité stérile, lorsqu'enfin la misère, cette seconde fatalité qui jette les hommes morts de leurs projets, lui offrit, pour dernière ressource, une savonnette, un cuir et un rasoir. Et le voilà d'abord fort abattu de sa mauvaise fortune, puis la supportant par habitude, ce correctif du malheur. Enfin, après avoir traversé beaucoup de villes, séjourné dans un grand nombre de villages, toujours sans joie, parce qu'il manquait de ce qu'il adonne, l'argent, il s'était arrêté là où le hasard lui avait emmené son frère et l'ancien ami de sa famille. C'était pour Fabrice son premier bonheur. Je fis monter les deux frères dans mon vieux carrosse. Leur caractère était si loyal qu'un moment m'avait suffi pour apprécier. Nous prîmes la route de Zamora. Et aussitôt arrivé, je le mis à la tête de mon commerce, où je les ai traités comme s'ils étaient mes enfants. Oh, ils n'ont pas à s'en plaindre, car depuis que le lieutenant général et le médecin du roi se sont fait marchands, ils lèvent la tête, et, fort de leur travail, fort de leur indépendance, n'ayant rien à demander aux hommes ni aux événements, rien à souffrir de l'insolence d'un protecteur, dont la faveur s'obtient, non par le mérite mais par la bassesse, ils voient la fortune leur arriver de tous les côtés. Ils n'ont plus besoin, grâce au ciel, de courir après elle. Et les voilà surtout bien convaincus que la vie est trop sérieuse pour la jouer sur une carte. L'hôte, après avoir écouté avec une attention profonde, demeura pensif. Sans dire une seule parole, il prit un flambeau, conduisit le marchand à la chambre qui lui était destinée, puis l'ayant salué, il se retira. Le lendemain, au moment où paraissait le jour, un grand bruit de chevaux réveilla notre marchand. Il ouvrit sa fenêtre, regarda dans la cour. C'était le fils de l'hôte qui partait pour l'université de Salamanque.